Ce ne vediamo? Allora possiamo chiedere la preghiera a Roma. Merci Seigneur, merci de la croix de Jésus-Christ. Merci pour sa mort, merci parce que par sa mort tu nous donnes la vie. Par sa mort tu nous délivres, Seigneur, tu nous permets d'accéder à une nouvelle vie, la vie en toi, la vie par la foi. Seigneur, que tu veuilles nous bénir durant tout ce temps, que tu veuilles nous bénir maintenant, Seigneur. Et Seigneur, nous comptons chaque jour sur toi. Seigneur, cache-nous dans ta croix. Seigneur, glorifie-toi et encourage-nous, Seigneur, par les Écritures et aide-nous à vivre des vies qui sont conformes à ce que tu attends de nous, Seigneur, que tu croisses dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, la famille et le célibat, cultiver l'hospitalité, l'entraide et le contentement. Par contre, en fin de la dernière sujet, moi j'étais un peu inquiet parce que je me suis dit, mais comment je vais concilier la famille et le célibat ensemble et finalement, je me suis dit que famille, célibat ou célibat, famille, ben ça c'est l'histoire de notre vie à tous. C'est l'histoire de notre vie parce que c'est souvent un enchaînement, une alternance de famille, célibat ou couple, célibat. Hein. Alors je me suis fait des petites lignes, j'aurais voulu vous le montrer, mais il n'y a pas de tableau pour vous le montrer, mais imaginez la largeur de la salle, voilà, ça c'est votre vie. Alors vous commencez votre jeunesse, votre adolescence, et puis ça peut commencer par un mariage, puis ça dure un certain temps, voilà, vous êtes marié, et hop, ça s'arrête parce qu'il y a un décès. Et puis vous vous retrouvez de nouveau célibataire, veuve, pendant un certain temps, et finalement, bien, ça commence par le célibat, ça se termine aussi par le célibat. Parfois, c'est peut-être ce qu'on désirait le mieux, en fait. On commence à l'adolescence, et puis on arrive à la vingtaine d'années, on se marie, puis là, ça dure jusqu'au bout, marié. Oh, voilà. Et on s'éteint tous les deux, ou on part tous les deux, ou l'enlèvement tous les deux. Pour d'autres, c'est célibat, puis ça dure, et on se marie là. Ça arrive aussi, hein. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé il n'y a pas très longtemps. Pour d'autres encore, c'est célibat, mariage, et puis décès, célibat, mariage, et puis on recommence, et puis parfois encore décès. Dans notre église, on a le cas, une sœur comme ça, mariée deux fois, et deux sont décédés. Parfois, c'est célibat, un court temps de mariage, et puis de nouveau, un célibat, je pensais à Anne dans les Écritures, vous savez, dans Luc, hein, au début, elle s'est mariée, et ça a duré, je sais plus, 7 ans ou quelque chose comme ça.
Et Anne, femme de Phénomène.
Voilà. Et puis de nouveau, célibat, et puis elle est restée veuve longtemps. Hein. Et puis parfois, bien, c'est célibat jusqu'au bout, célibat. Et en fait, on commence tous de fait par être célibataire. Et on a souvent un idéal en tête. On imagine la vie, on se dit, voilà, le mieux c'est commencer comme ça, puis ça se termine comme ça, mais les choses ne sont pas toujours comme Dieu le veut, hein, ça change. Quel est le but de Dieu pour notre vie? Et Olivier vient de nous donner toute l'introduction, hein, c'est merveilleux. Quel est le but de Dieu pour nous? Célibataire ou marié avec une famille, ou de nouveau célibataire ou remarié, Dieu poursuit son but. Et Dieu est constant dans sa volonté pour nous, pour chacun d'entre nous. Quelle que soit notre situation, eh bien, le but est toujours le même. Dieu a des buts qui sont constants. Et l'un d'entre tous, hein, entre autres choses, hein, c'est que Dieu veut notre sanctification à tous. Dieu veut notre sanctification, hein. On le connaît ce verset dans Thessaloniciens, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. En hébreu, il nous est encore dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ou encore, on lit que Dieu nous a appelés à la sanctification. Et au travers du célibat, comme au travers du mariage, du veuvage, hein, Dieu vise ce but, il veut nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Il veut nous libérer de nous-mêmes, du moi qui prend tant de place en nous. Il veut nous amener à la mort à nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il ne nous épargne pas des étapes dans nos vies, des étapes joyeuses et des étapes aussi difficiles, des attentes, des épreuves, des retards, des imprévus, parce qu'il veut notre sanctification. En 2 Corinthiens, on lit qu'il nous faut achever notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc cette volonté de Dieu, c'est une constante pour nous, c'est l'œuvre qu'il poursuit au travers de toutes les circonstances de nos vies. Et la solitude, eh bien, c'est souvent pour beaucoup une épreuve qui est lourde et que l'on traîne péniblement. Certes, Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde, on le sait, il est notre ami. Mais le célibat ou le veuvage, ça peut créer un manque, un vide, et on voudrait combler le vide. Et j'en parle un peu par expérience parce que je me suis marié à 31 ans, mais pour d'autres, eh bien, c'était encore plus tard, hein. Et les années, eh bien, elles sont longues, quand il y a une espérance comme ça de se marier. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et le célibat ou la vie seule, ça fait partie du plan de Dieu pour nous tous. Jusqu'à un moment de notre vie, on est forcément célibataire. Même Adam a été célibataire. Et Dieu permet ce temps de solitude. Pourquoi ? Parce qu'il a quelque chose de bénéfique pour nos âmes. Et vous conviendrez peut-être que le plus grand inconvénient du célibat, c'est la solitude. Mais le plus grand avantage du célibat, c'est la solitude. C'est aussi la solitude. Oui. Et le meilleur exemple dans ce domaine, c'est le Seigneur lui-même. Il avait cette liberté de pouvoir monter sur la montagne, de passer son temps seul avec son Père. Et il y a un avantage certain dans la solitude du célibat ou du veuvage. Parce que c'est un temps privilégié pour notre sanctification. Puisque notre intérêt, à ce moment-là, peut être exclusif pour le Seigneur. On peut se concentrer sur lui. On va prendre ce passage de 1 Corinthiens 7. Versets 32 à 34. Verset 32, alors je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Et il est certain que le célibat, ça présente cet avantage de pouvoir se concentrer sur le Seigneur. Dès que le célibataire se lève, il peut avoir ses pensées tout de suite pour Christ, pour son œuvre. Son réveil ne se fait pas avec des pleurs, des cris, des responsabilités familiales qui fait qu'hop, on saute dans la journée, hein, il faut le faire rapidement. Son foyer, nécessairement, il est silencieux, propice à chercher, à aimer, à servir Dieu. Le célibataire dispose de tout son temps, de tout son argent, de toutes ses forces pour Dieu. Donc c'est une période de la vie que Dieu peut imposer aussi pour notre progrès, pour notre croissance spirituelle. Dieu veut nous sanctifier durant ce temps qui est précieux. Et il est vrai souvent, et moi le premier quand je l'ai vécu, que l'homme ou la femme veut vite sortir du célibat, le plus rapidement possible. Parfois, on a même en vue la personne qui pourrait être, si Dieu le veut, notre épouse ou notre époux. Et on pense vraiment, ah oui, ça c'est la bonne personne, vraiment. Mais est-ce que nous, on est la bonne personne pour elle, ou pour lui? Est-ce qu'on est la bonne personne? Et il faut considérer aussi que ce temps, c'est peut-être un temps de préparation pour notre avenir. Dieu nous sanctifie pour accomplir sa volonté dans notre vie. Et dans le veuvage, Dieu fait aussi son œuvre. Parfois, on se demande, mais pourquoi l'un part et l'autre reste? Est-ce que ça n'aurait pas été beaucoup plus beau de partir tous les deux ensemble? Mais si nous sommes encore là, Si on reste, c'est que Dieu vise notre sanctification. Il vise notre sanctification. Il y a encore des choses à nous apprendre. On n'est pas encore prêt pour rencontrer le Seigneur. Le Seigneur doit encore parfaire son œuvre dans notre vie. Il veut imprimer encore un peu plus son divin caractère sur tous nos fronts, hein, comme le cantique. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et c'est encore un temps de sanctification. Mais le mariage, c'est aussi une école de sanctification. C'est à chaque jour, c'est à chaque heure que la sanctification s'opère. Il y a un vis-à-vis qui est permanent avec nous. Et si au départ, eh bien, c'est tout rose, on ne voit pas tout, hein, et puis dans la suite, on apprend à connaître l'un, l'autre, à se connaître aussi soi. Hein. Je peux vous dire, confier que Kimberly pensait que j'étais parfait au départ. Vraiment, hein? Elle était sérieuse, hein? Elle ne voyait pas mes défauts. Comme vous aussi, hein, je ne sais pas. C'est plus le cas. Et il est rare, par exemple, au célibataire de s'énerver tout seul. Il ne peut pas s'énerver avec quelqu'un, il n'y a personne qui s'énerve. Oh, il peut s'énerver avec des choses, ça dépend du caractère. Mais dans le couple, alors là, eh bien, c'est dans le célibat, je crois que parfois on est aveugle sur certains de nos péchés. Parce que ben, tout seul, ils ne ressortent pas. Hein. Mais dès qu'on est en couple, alors là, eh bien, ça ressort. On ne croyait pas, mais c'est là. Il y a de l'égoïsme, de l'irritabilité, de la susceptibilité, un manque de douceur, de la négligence, etc., etc. Et c'est en vivant avec nous que voilà, tout ressort, nos péchés se font jour. On est parfois poussé aussi à des limites. Hein. Il y a la fatigue. Les choses ne vont pas forcément comme nous, on voudrait qu'elles aillent. Si seul, on peut être laxiste sur certaines choses. Quand on est deux, eh bien, hop, l'autre ne laisse pas passer la chose et hop, la désapprobation ressort. Et Dieu cherche par tout cela notre sanctification. Ça, c'est son but, l'un de ses buts. Et c'est pour ça que Dieu fait bien les choses, même si on n'est pas l'homme idéal, la femme idéale. On peut rêver avant de se marier à un mari idéal, beau, fort, prévenant, spirituel, doux, attentif, romantique, éduqué, sportif, volontaire, patient, serviable, et pourquoi pas riche. Et à l'inverse, on peut rêver d'une épouse parfaite, séduisante, mais discrète, brillante, mais soumise, travailleuse, prévoyante, spirituelle, belle et fidèle. Mais rêvez son nom sur terre, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et le mariage, tout comme le célibat, eh bien, c'est utile pour ce but que Dieu recherche dans nos vies. Et la sanctification, c'est pour nous tous, en tant que célibataires, couple, veuve. Et ça, c'est finalement la manifestation de Jésus-Christ dans nos vies. Jésus veut grandir, il veut prendre toute la place, il veut vivre sa vie en nous. Et Dieu fait concourir eh bien, toutes choses à notre bien dans ce but, hein, qu'on vive une parfaite identification avec notre Seigneur. La solitude du célibat vise ce but, l'école de sanctification du mariage vise ce but, et l'épreuve du veuvage eh bien, vise aussi ce but. Dieu veut qu'on vive Romains 6, 7 et 8. Qu'on comprenne bien, qu'on le vive, cette mort à nous-mêmes, l'ensevelissement, et puis cette résurrection pour vivre avec lui, vivre en nouveauté de vie. Et il faut atteindre ce but, cette réalité dans notre vie quotidienne. Dieu veut réaliser ça en nous. Christ est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et Dieu veut que ça devienne une réalité pour nous aussi. Nous sommes revenus à la vie avec lui, et c'est pour Dieu qu'il veut que nous vivions dans le célibat, dans le couple ou dans le veuvage. Donc, quelle que soit la situation présente aujourd'hui, on peut remercier le Seigneur parce que Dieu a fait en sorte que ça soit vraiment propice pour nous aujourd'hui, pour notre sanctification. Mais Dieu a aussi une autre volonté au travers de notre célibat ou notre mariage. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement la délivrance du mal, mais c'est aussi nous engager à faire le bien. Et Dieu a un plan beaucoup plus large que notre petite vie chrétienne, quand on est centré sur soi. Éphésiens 4, 11 et 12. Éphésiens 4, 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc Dieu a fait des bons hommes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour conduire son peuple vers la perfection en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et le célibat, le mariage, la famille, ça présente des occasions qui sont merveilleuses pour servir le Seigneur. Et Dieu veut nous conduire dans ces œuvres de service qui édifient le corps de Christ. Et on a notre part dans l'Église de Jésus-Christ. On est des pierres vivantes et Dieu veut nous mettre au travail, œuvrant tous ensemble pour construire son corps. Et le célibat, bien pour commencer, c'est un temps unique de disponibilité pour le service. Le célibataire, il n'a pas de responsabilité familiale qui le presse, à moins qu'il ait une famille comme des parents ou des choses comme ça. Il n'a pas d'horaire à respecter la personne qui l'attend chez lui. Il dispose d'une liberté d'action pour être efficace dans le service. Et c'est dans cet esprit que Paul voulait rester célibataire, parce qu'il voulait garder cette liberté d'action. Paul croyait et voyait eh bien, toute cette liberté de mouvement, de force, de talent, de service, de concentration qu'il avait dans la vie seule. Si Paul avait une famille en charge, eh bien, il n'aurait certainement pas fait le quart de tous les voyages qu'il a fait, parce qu'il aurait dû s'occuper de sa famille. Et même si nous ne sommes pas tous appelés à avoir un ministère comme Paul, le célibat, eh bien, ça n'en reste pas moins pour chacun d'entre nous un temps privilégié pour le service. Et Paul, on voit, il était, semble-t-il, entouré de beaucoup de célibataires qui étaient dans son ministère. Ce n'est pas dit explicitement qu'ils étaient célibataires, mais à voir leur mobilité, comment eh bien, ils pouvaient voyager sans trop se soucier d'une famille qui n'est jamais mentionnée, il est probable qu'ils étaient seuls. Et je pense à Tychique, par exemple. On le voit une première fois attendre Paul à Troas. Ensuite, Paul l'envoie pour porter la lettre à Éphèse, et puis la lettre à Colosse. Ensuite, celui-ci rejoint Tite en Crète, et puis Paul l'envoie de nouveau à Éphèse. Il appelle bien-aimé, fidèle ministre, fidèle diakonos, c'est-à-dire serviteur. Et on voit qu'une personne seule, ça peut être une aide précieuse pour l'édification du corps de Christ. Je dis ça peut être, parce qu'il faut que eh bien, la personne le veuille aussi, pour qu'elle se mette à la disposition du Seigneur. Alors, quelle est l'œuvre de service que le Seigneur nous appelle à faire? Quelles sont les œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous entrions en elles, que nous les accomplissions? Dans la première épître à Timothée, on voit Paul qui donne des recommandations au sujet des veuves. Prenez 1 Timothée 5.5. Il dévoile un avantage du veuvage, de la solitude. 1 Timothée 5.5. Il dit... Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée toute seule, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Et prier, c'est une œuvre de service qui est importante, essentielle à la formation de l'Église. C'est un service qui construit l'Église. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes, mais de côté, pour prier. Avec persévérance, avec fidélité, et le célibat, c'est un temps idéal de prière. Alors que demeurer un fidèle intercesseur avec toutes les obligations familiales, eh bien ça requiert beaucoup de volonté. Il faut de la volonté, il faut de l'ingéniosité parfois. Quand il y a une vie professionnelle, il y a une vie de couple, il y a la responsabilité des enfants... quand ils sont surtout en bas âge, il faut lutter pour garder ce moment d'intercession, sinon on est avalé par toutes les autres choses. Et le célibataire, bien lui, il a une grande liberté pour intercéder Il est probable que le prophète Daniel était célibataire. La Bible encore ne nous dit pas, mais l'usage c'était eh bien, de faire eunuque les hauts fonctionnaires qu'on emmenait à Babylone. Et Daniel était sous la responsabilité du chef des eunuques, hein, donc encore un indice ici, il est raisonnable de penser donc qu'il était seul toute sa vie. Et c'est lui qui nous enseigne à prier trois fois par jour. Hein. Daniel, trois fois par jour, se mettait à genoux, priait, louait son Dieu. On voit l'exemple de quelqu'un qui est régulier, qui est constant dans sa vie de prière. Et ça, c'est vraiment un privilège de la vie seule. Avant, je pouvais avoir cette régularité, vraiment, c'était ordonné. Hein. Maintenant, ça a éclaté, c'est différent. C'est différent. Et c'est là où vraiment, si on le veut, eh bien, il nous est possible de persévérer nuit et jour dans les supplications et les prières. Un autre service important dans le corps de Christ, c'est l'hospitalité. Il y a peu, on a reçu une chorale de l'université de Bob Jones aux États-Unis, 32 personnes, 32, la plupart jeunes, qui sont venus chanter, hein, et j'ai été surpris, un peu triste, de voir que eh bien, des célibataires qui pouvaient ne se sont pas proposés pour accueillir une fille, hein, s'ils étaient une femme, ou bien un homme, s'ils étaient un homme. Et quand on a la liberté de le faire, eh bien, il faut le faire. Il faut s'engager dans cette œuvre de service. Hein. Il n'y a pas de contrainte de déranger quelqu'un, il n'y a pas de contrainte de réveiller les enfants, parfois de devoir demander avant la vie, on peut improviser, hein. C'est ça qui est merveilleux aussi. Hein. On a la liberté d'ouvrir notre porte à quelqu'un du même sexe que nous. Et c'est souvent dans ces moments-là où il y a des rencontres, il y a des partages, on reçoit, on donne, et il y a une vraie bénédiction dans l'hospitalité. Il ne faut pas oublier que accueillir un enfant de Dieu, c'est accueillir Christ, et accueillir Christ, c'est accueillir le Père lui-même. Alors si on a un lit de plus, servons le Seigneur. En acte 9, on lit l'histoire de Tabitha, d'Orcas, acte 9, verset 36. Verset 36, il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Et en lisant l'histoire ici de Dorcas, il apparaît qu'elle était veuve elle-même ou qu'elle était célibataire. Parce que Dorcas, on voit, elle était d'une manière habituelle avec les autres veuves. Il n'est pas fait mention d'une famille dans tout le récit. Et lorsqu'elle est ressuscitée, on n'appelle pas sa famille, on appelle les saints et puis il y a les veuves qui l'entourent. Donc il est probable qu'elle était elle aussi seule. Et ce que j'aimerais souligner, c'est le verset 36. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et le célibat, eh bien, ça offre un grand éventail de possibilités de servir les autres, hein, de les aimer, Dorcas s'occuper de ceux qui l'entouraient. Elle vivait pas pour elle-même, elle n'était pas centrée sur elle-même, mais elle était tournée vers l'extérieur, tournée vers les autres, elle voulait faire du bien aux autres. C'était le témoignage d'une femme qui était disponible, qui était serviable. Et le temps que l'on peut exploiter pour le Seigneur, il est précieux. Nous sommes les dépositaires des années que Dieu nous donne de célibat. On n'a peut-être qu'un temps de célibat, on en est dépositaire. C'est un temps qui est précieux, comment nous gérons ce temps de célibat? Chaque mère de famille peut témoigner que son temps est réduit comme une peau de chagrin une fois qu'elle s'est occupée de ses enfants, qu'elle a pris les repas, qu'elle a rangé sa maison, et il reste. Il n'y a plus de temps. Alors que quand on est seul, on a du temps largement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Dorcas, elle servait, elle faisait des bonnes œuvres. Elle se rendait disponible pour ses frères et sœurs. Mais on voit aussi, elle faisait beaucoup d'aumônes. Parce qu'elle faisait des tuniques, elle faisait des vêtements, donc c'était son revenu, elle gagnait de l'argent. Alors elle investissait son argent, non pas dans les trésors terrestres qui sont rongés par la rouille, par la peigne, mais elle plaçait son argent au ciel. Elle était généreuse, elle participait pour chaque bonne cause, pour l'œuvre du Seigneur. Et ça, c'est aussi la bénédiction dans la vie d'un célibataire. Il n'y a pas les responsabilités familiales qui concernent le budget. Les frais d'un célibataire sont nécessairement moins importants qu'une famille. Alors, bien le surplus, ça peut être utilisé pour l'œuvre du Seigneur, l'image de Dorcas. Quelles sont les œuvres préparées d'avance que Dieu nous donne à faire dans notre célibat? On doit chacun prendre sa place dans le corps. On a tous notre part à faire. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, eh bien, nous ne pourrons pas le faire demain. Ce sera trop tard, peut-être. Alors, eh bien, agissons aujourd'hui avec sagesse. Et lorsqu'on est en couple, lorsqu'on est une famille, Dieu veut qu'on le serve également, qu'on entre dans les œuvres de service qu'il a préparées pour nous. Et la famille, eh bien, elle a sa place au sein de l'Église, elle a son ministère au sein de l'Église. Et si le célibat, ça présente un avantage, quand on veut par exemple inviter à l'improviste quelqu'un du même sexe, hein, la famille, elle est propice, elle, pour pouvoir accueillir eh bien, tout le monde, un homme, une femme, une famille, hein, des enfants, il n'y a pas de contraintes. Il est dit dans la parole, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et on voit l'hospitalité, ça ne semble pas avoir un caractère exceptionnel dans les Écritures. Ça nous est répété plusieurs fois, hein, « Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Et donc, la famille, elle doit aussi apprendre à ouvrir ses portes hein, à ses frères et sœurs. Il y a une œuvre du ministère, un service rendu pour le bien et l'édification du corps de Christ. Et j'ai lu récemment, dans un livre, le témoignage d'une sœur qui, dans son église, elle avait un pasteur, hein, mais il y a des choses qu'elle ne comprenait pas dans la vie chrétienne, et notamment, eh bien, comment vivre la mort à soi-même et vivre cette vie de résurrection, comment eh bien, la chair est morte, la mauvaise nature est crucifiée, tout ça. Et parce qu'elle et son mari accueillaient et ouvraient leurs portes à chaque fois à beaucoup de monde, et chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait dans l'église, ils accueillaient. Et en fait, eh bien, c'est chaque chrétien qui vivait cette mort et cette vie avec Christ qui apportait sa petite pierre. Et elle recevait quelque chose, elle le gardait précieusement dans son cœur, elle ne comprenait pas tout. Et puis après, un autre venait, un missionnaire, un pasteur ou un homme fidèle. Et puis de nouveau, une petite pierre, et puis hop, jusqu'à ce qu'il y ait un déclic qui se fasse. Et elle a compris eh bien, comment vivre sa vie chrétienne. Et je crois que quand on ferme ses portes, on est vraiment confié chez soi. Mais on se prive de vraies bénédictions, de la richesse du corps de Christ. Dernièrement, on a accueilli un missionnaire au Pakistan qui a voulu nous visiter parce qu'on prie pour lui depuis 5 ans, mais on ne l'avait pas vu depuis 5 ans. C'était un missionnaire qui est passé dans notre église comme ça, pas par hasard, enfin, par hasard de Dieu, quoi, hein, il s'est arrêté là parce qu'il venait voir son frère qui était dans la région. On a découvert qu'il était missionnaire au Pakistan. Et puis, donc il s'est dit, il faut que j'aille le visiter parce que ça fait 5 ans qu'il prie pour moi. Alors, il est venu et on l'a accueilli chez nous pendant 4 jours. Et c'était une vraie bénédiction. Une bénédiction. Mais chaque repas, qui me dit peut en témoigner aussi, on recevait. Il nous partageait sa vie, ce qu'il vivait, partageait comment il... les choses qu'il avait compris dans la parole. Et c'était vraiment enrichissant. Servir Christ, c'est ouvrir sa porte, c'est partager son repas, c'est parler de Christ avec nos frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit en Romains, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Et dans le domaine familial, il y a aussi la possibilité d'aider les saints, de pourvoir à leurs besoins. On dit, hein, quand il y en a pour 4 ou 5, ben, il y en a pour 6. Hein. Voilà, on peut accueillir quelqu'un qui est dans le besoin à sa table. Il y a donc une occasion de servir aussi, d'enrichir les autres, peut-être d'exercer un don de libéralité. Mais le fait d'avoir une famille, eh bien, ça offre aussi de formidables occasions de témoigner. Et vous le savez, j'imagine, j'espère, hein, ceux qui avaient des enfants en bas âge, hein, si Kimberly, elle le dit, elle n'a pas de facilité naturelle à parler avec les enfants, c'est trouver de la facilité. Et puis, j'ai jamais eu autant de contact, hein, depuis que j'ai des enfants et que je suis avec Kimberly. Hein. Et l'œuvre du ministère, c'est aussi d'être un témoin vivant de la grâce de Dieu, et donc de témoigner de ce que Christ a fait pour nous. Si le célibataire, il a peut-être de la facilité à témoigner à un célibataire, à chaque famille, elle a aussi un témoignage auprès des autres familles, des couples. Et c'est comme ça qu'on fait un travail d'équipe. C'est beau de voir des couples travailler ensemble pour le Seigneur. Et je pensais à Aquilas et à Priscille. Aquilas et Priscille se sont occupés d'Apollos. Ils l'ont exposé plus exactement les Écritures. Ils étaient investis pour l'édification du corps de Christ.
Est-ce qu'ils avaient des enfants?
Ah, pas mentionné.
Parce qu'on les voit bien libres, finalement.
Parfois, je me dis. Quel était stérile, je ne sais pas. Ouais, c'est possible, hein, puisqu'ils étaient disponibles, ils ont bougé beaucoup. Hein. Mais ils avaient aussi une maison, ils ont ouvert leur maison, l'église qui était dans leur maison. Hein. Mais ce qui était très touchant, je trouve, avec l'histoire de Aquilas et Priscille, c'est qu'ils sont toujours cités ensemble. Quand il y a Aquilas, il y a Priscille. Quand il y a Priscille, il y a Aquilas. Chaque fois. Et là, on voit vraiment un travail d'équipe ensemble. On voit l'œuvre du ministère, hein, une œuvre de service qui est faite ensemble, en couple. Et on a été sauvés pour glorifier Dieu dans notre couple, dans notre vie de couple. Et donc, il faut chercher ce que Dieu veut qu'on fasse ensemble, dans notre famille. Servir Christ, le Seigneur, racheter le temps. Et donc, qu'on soit célibataire, qu'on soit en famille ou veuf, Dieu veut notre sanctification, il veut qu'on le serve, qu'on prenne part aux œuvres de service, hein, pour l'édification du corps de Christ. Et pour terminer, Dieu veut qu'on le glorifie en réussissant ce que l'on est en train de vivre. On dit par exemple, oh, celui-là, il a raté son mariage vraiment, ou bien, ah, ils ont vraiment bien réussi leur mariage. Mais on pourrait dire aussi bien, en celui-là, il a raté son célibat. Oh, il est vraiment en train de réussir son célibat. Je crois qu'on peut peut-être aussi le dire du veuvage. Hein. Et Dieu veut qu'on le glorifie dans cette situation présente où il nous a placés. On ne sait pas combien de temps elle va durer, hein, que ce soit le célibat, que ce soit le mariage, que ce soit aussi le veuvage. Hein, qui peut dire ce que Dieu a décidé de notre avenir. Notre situation peut d'un seul coup changer. Hein. Le célibataire rencontre l'âme sœur. Le couple peut être brusquement séparé à cause d'un décès. Comme je lisais dernièrement le témoignage d'un frère qui a perdu sa femme et sa fille. Tout s'est arrêté, là, brusquement, dans sa vie. C'était un changement d'état. Dans le veuvage aussi, tout peut changer. Hein. Satan a vivre longtemps comme ça, seul, et puis bon, le Seigneur nous reprend. Personne ne sait ce que Dieu nous réserve. Et l'important, ce qui compte, eh bien, c'est de réussir ce que l'on est en train de vivre maintenant. Quelle que soit notre situation présente, il faut qu'on glorifie le Seigneur. En ce qui concerne le célibat, il y a de nombreux célibataires qui ratent leur célibat. Ils gâchent ce temps précieux qu'ils pourraient utiliser, tout leur potentiel pour la gloire de Dieu. Et Dieu veut qu'on vive pleinement ce qu'il a pour nous aujourd'hui et demain. Bien, c'est un autre jour. Dieu s'occupe de demain. Et si on vit mal le célibat, qui fait pourtant de la vie de tous les hommes, hein, on passe tous, on l'a vu, hein, par un moment de célibat, c'est aussi parce que parfois, le monde exerce une pression sur nous. Et j'aimerais vous partager quelques écueils qui ne sont pas de moi. En fait, c'est Tim Knickerbocker qui est venu récemment dans notre église, qui nous a prêché sur les célibats. Il nous a donné 4 écueils et j'aimerais vous les partager. Tout d'abord, il y a la dévalorisation du célibat par la société. Quand on est célibataire, immédiatement on nous juge. C'est qu'on a un problème. Tu as un problème. Tu es célibataire, mais tu as un problème. Tu n'es pas normal. Et avec ce genre de réflexion, eh bien, on comprend que c'est vraiment difficile de vivre le célibat. Depuis peu, là, depuis quelques semaines, on a une nouvelle sœur qui vient dans l'église, hein, qui s'attache à nous, et je suis allé la rencontrer avec son mari. J'ai rencontré son mari, et puis elle m'a dit qu'elle avait un fils d'une trentaine d'années qui était dans la pièce d'à côté, et ce fils a légèrement atteint d'autisme. Donc, peut-être 30, 33, 35 ans, 33 ans, je crois. Et puis, on l'a placé devant un psychiatre, une femme. Alors, elle lui a dit, mais alors, est-ce que tu as une petite copine? À ton âge, tu sais, il est temps d'avoir une petite copine. Il faut avoir une petite copine. Est-ce que tu en as une? En fait, elle a été en train de dire, mais toi, mon gars, t'es pas normal. Hein? T'es pas normal. Alors, il a regardé dans les yeux, il lui a dit, et vous? Vous avez un copain? Alors, j'imagine, elle était bien embarrassée, hein. J'étais pas là, mais elle était déstabilisée, hein, puisqu'elle me répondit, c'est moi qui pose des questions. Et puis, il peut vraiment y avoir une hantise d'être célibataire. Parce qu'il y a une attitude du monde, parfois il y a une attitude de propre famille, hein, qui nous dit, mais c'est pas normal. Et c'est comme ça qu'une jeune fille va se jeter dans les bras du premier venu, elle va offrir son intimité dans l'espoir de trouver le grand amour. Mais il faut refuser cette pression qui est mensongère. Le célibat est la plupart du temps qu'une étape dans la vie, un passage. Il faut réussir ce passage, réussir son célibat, en vivant pour Christ dans les situations présentes, confiant que Dieu a un plan pour nous. Ensuite, le monde nous invite à remédier rapidement à notre problème du célibat par la débauche. L'invitation à des nouvelles aventures, elle est constante. Hein. Et maintenant, avec Internet, on voit les sites qui pullulent, les sites de rencontres. Hein. Avec un simple clic, on se retrouve en contact avec des milliers, voire des millions de personnes qui sont comme nous, célibataires. Et le monde nous dit, après tout, ça ne regarde que toi, vas-y. Puis même, tu peux multiplier. Si ça échoue, tu recommences. Et donc, on nous pousse comme ça vers la débauche. C'est une invitation à la débauche. Mais Dieu ne nous a pas appelés à la débauche, mais à la sanctification. Celui qui s'attache à la prostituée d'un seul corps avec elle, nous dit Paul. Et là encore, il faut réussir son célibat en demeurant dans la volonté de Dieu. La sexualité est un don que Dieu a réservé pour notre conjoint. Un autre écueil, c'est le repli sur soi. Celui qui est seul, il peut commencer à croire qu'il est le centre de l'univers. Dans le célibat, il n'y a pas cette obligation forcément de te remettre en question, parce qu'il n'y a pas l'autre qui est là avec nous. Alors, eh bien, on peut finir par penser uniquement à soi. On tourne en rond autour de soi. On devient parfois difficile avec les autres. Il faut d'abord être bien conscient de cet écueil, et puis au contraire chercher à se tourner vers les autres, hein, à se donner, à servir les autres, à aimer les autres. Il faut sortir de soi-même. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est notre ligne de conduite, donner plutôt que recevoir. Un dernier écueil, c'est le manque de vis-à-vis. L'avantage du couple, c'est que l'autre est constamment avec nous, hein, et souligne ce qui ne va pas dans notre vie. Et ça oblige à se remettre en question, ça oblige à progresser, à changer. Hein. Et dans une vie seule, eh bien, il est bon aussi d'avoir un vis-à-vis, d'avoir un ami, si on est un homme, une amie, si on est une femme, hein, qui peut avoir une relation qui est franche, qui est ouverte avec nous. Hein. Un ami, c'est quelque chose de précieux. Est-ce qu'on a ce vis-à-vis amical ce conseiller, peut-être qu'il peut nous reprendre ou nous aider. Hein. Si ce n'est pas le cas, bien, il faut prier peut-être pour cela. Quelqu'un qui peut nous renvoyer une image honnête de ce que nous sommes. Parce que quand on se regarde que soi, eh bien, on ne se voit pas tel que l'on est réellement. Hein. Et que nous soyons depuis toujours dans le célibat, que nous soyons de nouveau dans une période de célibat, il ne faut pas qu'on rate notre célibat. Dieu a un plan pour nous, pour ce qui est d'aujourd'hui, hein. Il faut qu'on s'occupe d'aujourd'hui, il veut qu'on soit des célibataires, mais des célibataires épanouis. Et vous savez, ce missionnaire-là, au Pakistan, il a une cinquantaine d'années, et il est vraiment épanoui, épanoui. Il est en train de faire des œuvres de service pour Dieu, que Dieu lui demande. Il y a la joie du Seigneur qui est dans sa vie. Hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est extraverti, mais il est heureux, content, épanoui dans son célibat. Et je lui ai posé la question parce qu'une fois, j'ai vu une petite allusion dans un email. Alors, est-ce que tu penses à te marier ou tu as des projets? J'ai cru voir quelque chose comme ça. Hein. Il m'a dit oui, mais il me manque la personne. Mais on voit sa vie, elle n'est pas court-circuitée par son désir. Il a envie de se marier. Mais il n'est pas freiné dans son service. Non, il entre pleinement, joyeusement, dans ce que Dieu veut pour lui en tant que célibataire. Les choses vont peut-être changer hein, dans un certain temps, si Dieu le veut, mais pour lui, eh bien, il va réussir cette période de célibat. Il aura glorifié Dieu dans la situation présente, dans ce que Dieu lui demande de vivre. Et le célibat, eh bien, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas quelque chose d'anormal, mais c'est un temps choisi qui a son lot de bénédictions. Et le Seigneur, eh bien, va continuer à nous rendre plus semblables à lui. Et puis, il faut également réussir notre mariage. Mais qu'est-ce que c'est que réussir son mariage? Et là, on pourrait s'étendre et dire plein de choses. Hein. Bientôt, je crois, Olivier va nous parler d'éducation, hein, de réussir son mariage, mais c'est sûrement aussi réussir l'éducation de ses enfants, l'instruction. Un mariage réussi, c'est à mon sens un mariage qui a progressé. Un mariage qui n'est pas resté statique, mais où les deux conjoints ont changé. Et ça revient un petit peu sur ce premier point de la sanctification. Dieu veut que nous changions. Et c'est entre autres choses pour cela qu'il a voulu aussi notre mariage. Il importe que vraiment nous changions. On a tous besoin de changer. En prenant conscience de nos défauts, de nos faiblesses, en les confessant et en désirant qu'il y ait que Christ fasse sa place en nous, qu'il vive en nous, hein, qu'on soit libéré de soi, il faut qu'il croisse et que moi, eh bien, je diminue dans mon couple. Et nous n'avons bien sûr, pas la capacité de nous changer nous-mêmes, mais on peut avoir la volonté. Et même si on n'a pas la volonté, eh bien Dieu peut produire en nous le vouloir, la volonté et le faire. Donc même si on a du mal, eh bien on peut le réclamer, Dieu peut nous donner la volonté, et puis il peut nous donner le faire, de nous transformer, de nous changer, hein, en nous repentant et en offrant notre vie au Seigneur pour que lui, eh bien, nous remplisse. Et un mariage réussi, c'est un mariage où Christ nous transforme petit à petit, fur et à mesure. Il y a une évolution vers le meilleur. Là où le mariage est en danger, c'est quand il n'y a pas le désir de changer dans le cœur des conjoints ou dans l'un des conjoints. Parfois, c'est que dans l'un des conjoints, il n'y a pas le désir de changer. À ce moment-là, ben, il y a vraiment un danger. Et je me suis retrouvé face à un couple, l'un voulait vraiment changer, il était prêt à tout changer. Il regardait vraiment les problèmes et il voulait changer. Et puis l'autre ne voulait pas changer. Là, c'est la rupture. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament d'un couple qui était tordu parce que l'un des conjoints ne voulait pas changer. Il était vraiment... C'est Abigaël et Nabal. Vous savez, ce couple, hein, Nabal était bourré de défauts. Il était méchant, égoïste, dur. Sa femme le connaissait comme ça. Ses serviteurs le connaissaient aussi comme ça. Hein. Ils sont allés voir Abigaël par derrière pour lui dire, vous savez, le maître, il a fait ça. Mais le plus gros défaut de Nabal, c'était pas son péché, c'était qu'il ne voulait pas s'en repentir et qu'il ne voulait pas changer. Parce que pécheurs, on est tous pécheurs. Et le mariage, eh bien, ça fait souvent ressortir les péchés de notre cœur. Hein. Mais tant qu'on veut changer, tant qu'on espère en l'Éternel, et bien à ce moment-là, il y a toujours un bonheur qui peut se faire dans la relation de couple. Hein. Notre mariage, à ce moment-là, il est sur la voie de la réussite. Même si le péché apparaît, il y a la repentance, un désir de changer, et c'est là où on glorifie Dieu dans le mariage. Hein. Réussir son mariage, c'est désirer progresser dans sa relation de couple. Et pour bien commencer, je pense qu'il faut se regarder d'abord soi, hein, et plutôt d'atteindre toujours ou souvent les changements de l'autre, hein, il faut commencer par se regarder soi. Parce que ce qui crée un problème peut-être dans le cœur de notre épouse, dans le cœur de notre mari, finalement c'est un problème que nous avons dans notre cœur et que l'on ne règle pas. Alors eh bien ça engendre après, il y a des conséquences, hein. Donc il faut commencer par se regarder soi-même, au lieu de pointer les yeux sur l'autre. L'histoire de la paille et de la poutre est aussi valable dans le couple. Et donc, réussir son mariage, c'est progresser, c'est changer, c'est être sanctifié par le Seigneur. Réussir son mariage, c'est aussi, je pense, découvrir là où on se complémente dans le couple. En tant que couple, on l'a vu, hein, Dieu veut qu'on le serve, mais quelle est ma part, quelle est la part de mon conjoint, comment faire équipe dans un travail qui est efficace. Il y a un frère qui me parlait récemment de la place de chacun dans le couple, et il me disait, c'est vrai que dans l'église, on parle souvent des colonnes. Il faut des hommes dans l'église, hein, qui tiennent l'église, hein, comme les colonnes d'une cathédrale, qu'elle soit vraiment solide, large, élancée, montant jusqu'au toit. Et on peut avoir le sentiment que tout repose sur les colonnes. Alors que l'édifice ne serait strictement rien s'il n'y avait pas les contreforts à l'extérieur. Vous savez, l'église est tellement lourde, la cathédrale est tellement lourde, que tout le poids de la voûte ou des voûtes repose sur les murs. Et s'il n'y a pas les contreforts sur les côtés, comme ça, eh bien tout s'effondre. Et les contreforts, eh bien ça peut être l'image des femmes qui sont en arrière, qui sont distraites. On ne les voit pas forcément, elles sont dans l'ombre, mais pourtant, on ne peut pas faire sans elles. Quand vous rentrez dans l'église, vous ne voyez que les colonnes. Et les contreforts, eh bien, sont derrière. La colonne seule, sans le contrefort, eh bien, ne peut pas soutenir l'édifice. Et un mariage qui réussit, eh bien, c'est un mariage où chacun comprend la place qu'il a dans le couple, comprend sa complémentarité devant le Seigneur et pour servir le Seigneur. C'est là où on devient efficace. Et le foyer, la maison, hein, là où on vit, c'est souvent le lieu de tous les partages, de toutes les bénédictions, de toutes les formes d'édification entre frères et sœurs, aussi d'évangélisation pour des connaissances, des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. C'est là où on accueille, où on invite. C'est dans le foyer que beaucoup peut être accompli pour l'œuvre de Dieu. Olivier parlera, c'est là aussi qu'il y a l'éducation des enfants. Mais qu'est-ce un foyer sans épouse? C'est elle qui est la maîtresse de maison. Et un mari peut arriver à l'église, par exemple, et partager, oh, ben, ce week-end, on a reçu nos voisins, c'était super, vraiment, on a pu témoigner du Seigneur, et vraiment, c'est merveilleux. Mais on oublie aussi tout le cadre qui a permis à la rencontre d'être possible. L'épouse qui s'est donné du mal pour ranger le foyer, que ce soit en ordre, qui s'est donné du mal pour faire un repas de préférence bon, ouais. L'épouse qui s'est peut-être aussi occupée du service, dans le repas, qui essaie de calmer les enfants pour laisser l'opportunité au mari de pouvoir bien témoigner. Donc il faut faire attention aux contreforts qui sont sur le côté, hein, qui rendent l'occasion possible. Adam a reçu une aide semblable à lui. Et l'aide, elle peut parfois être frustrée parce qu'elle a l'impression qu'elle fait la popote, et puis elle se dit, ben voilà. Alors que le contrefort est essentiel pour les œuvres spirituelles. 1 Samuel 30, verset 21. Verset 21, David arriva auprès des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David au combat prirent la parole et dirent, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants, qui les emmènent et qui s'en aillent. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, car il nous a gardés, et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. Et là, on a ici la preuve que pour Dieu, il n'y a pas une place d'honneur et puis une place qui est méprisable dans les services. Même si on n'est pas au cœur de la bataille, même si on est en train de garder les bagages, même si on s'occupe de la logistique, alors eh bien, on va partager la même part, exactement la même part. Et on voit l'œuvre de service du mari, elle est liée à l'œuvre de service de son épouse. Parfois, Kimberly, ça crie dans l'appart, ça pleure. Elle prend les enfants, elle se sauve au parc, et moi, je suis dans le silence, et je peux prier pour l'église. Devant Dieu, est-ce que sa part, elle ne vaut pas la mienne? Pareil. C'est pareil. Et réussir son mariage, eh bien, c'est comprendre que nous travaillons ensemble pour la gloire de Dieu. Et ce que l'on fait, eh bien, c'est lié à ce que l'autre fait. Et de même, l'homme doit prendre sa place en tant qu'exemple dans le foyer. Il faut que le mari comprenne sa place de leader, de conducteur, d'exemple, et qu'il assume avec sagesse. L'homme et la femme se complémentent, mais il faut assumer chacun son rôle. Dans le livre des rois, juste après, il y a Élie, il y avait vous savez, tous les sacrificateurs de Baal, là, qui se sont incisés, etc. Et puis ensuite, Élie a prié pour que la pluie revienne après le temps de sécheresse. Il a commencé à avoir un petit nuage. Et puis, Élie a envoyé son serviteur auprès d'Akab pour le prévenir que la pluie arrivait. Akab est parti sur son char. Et puis, le verset suivant dit, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » C'était un miracle. Élie a couru plus vite qu'Akab, que le char d'Akab, il a devancé. Je ne sais pas exactement où était Élie sur le mont Carmel, mais au minimum c'était 10 km, au maximum c'était 50 km. Donc c'était vraiment un miracle de passer devant le char d'Akab. Il a devancé. Il était important pour lui de devancer Akab. Et j'étais vraiment béni en lisant toute cette histoire d'Élie, et on peut en tirer une application pour nous, pour les hommes, pour les maris. Dieu a confié aux hommes la responsabilité d'être des conducteurs. Conducteurs du foyer, conducteurs de la famille, conducteurs de l'église, conducteurs même de la société. Et un conducteur, il a pour responsabilité d'être un peu en avance. Il faut qu'il devance les autres. Il ne peut pas se contenter d'être à la traîne derrière les autres. Et c'est quelque chose qu'on voit particulièrement dans le travail. Celui qui est visionnaire, qui prévoit la suite, eh bien, il avance. Et j'entendais il n'y a pas très longtemps le groupe Total qui voyait eh bien, la crise énergétique qui venait. Alors, ils se sont dit, bon, il faut qu'on se tourne vers d'autres domaines, vers les énergies renouvelables, etc. En allant à Toulouse, l'année dernière, j'ai rencontré un frère de l'église de Vincent qui m'a hébergé. Et en fait, c'est l'inventeur des poubelles que vous voyez dans les rues. Incroyable. Et il y a plusieurs dizaines d'années en arrière, pendant qu'il y avait... il était en plein dans le développement des poubelles, il y avait une guerre sur le marché, pour le marché des poubelles. La concurrence était sévère. Alors il y a la pensée à la poubelle de 300 litres. Les grosses poubelles, là, personne n'avait fait ça. Hein, il y a pensé, il a créé. Et puis hop, ça, il a devancé tout le monde. Ensuite, il était en train de suivre un camion poubelle dans la rue. Et il pensait à ses poubelles, comment il allait faire avancer les choses. Et puis, il a vu un camion qui nettoyait la chaussée. Et puis, il s'est dit, mais on nettoie les chaussées, mais on ne nettoie pas le trottoir. Alors, eh bien, il a créé les petits camions étroits
qui vont sur les trottoirs, qui nettoient les trottoirs, et de nouveau, hop, il a devancé tous les concurrents. Il avait toujours un wagon d'avance sur les autres. Et pour un leader, un conducteur, eh bien, c'est important d'avoir un wagon d'avance dans sa famille, dans son foyer, dans son église, dans sa nation. Et c'est malheureux de voir qu'aujourd'hui, c'est une réalité, hein, il y a souvent beaucoup plus de femmes qui sont consacrées que d'hommes qui sont consacrés au Seigneur. Ils sont derrière les femmes. Ils ne sont pas en avance, en sainteté, en piété, en fidélité, en courage, en persévérance, en connaissance de la parole. Il n'y a pas un concours, mais il doit y avoir un désir d'avancer, de progresser. Parce que quand on conduit, eh bien, il faut savoir qu'on a derrière soi quelque chose à conduire. Et donc l'homme, il doit avoir une longueur d'avance pour son foyer, pour ceux qu'il aime, pour ses enfants. Il faut qu'il soit un modèle quand on le regarde. Il faut qu'on ait confiance en lui. Dans le livre des Juges, Barak un jour a dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, eh bien, je n'irai pas. » En fait, il n'avait pas le courage d'aller combattre l'ennemi. Et puis, ben, finalement, oui, il n'avait pas de foi. Ça, il n'avait pas de foi. Déborah avait finalement beaucoup plus de courage que lui. Ce qui veut dire, eh bien, qu'elle le devançait. Et Barak, eh bien, au lieu de prendre sa place d'homme, de juge en Israël, de conducteur, il est resté en arrière. Et puis c'est Jaël qui a planté le pieu dans la tente de Sisera. Aucune gloire pour Barak. Paul a dit au jeune Timothée, qui était un conducteur aussi, hein, « Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. » Et ça, c'est une exhortation qui est adressée à tous les chefs de famille, tous ceux qui conduisent. Dieu ne peut pas se servir de nous si alors que de fait, parce qu'on est un homme, on doit conduire, on est à la traîne spirituelle. Il faut qu'on soit un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et donc, l'homme doit réellement être la colonne dans le foyer, celui qui assume, il faut qu'il assume sa place. Et on a un témoignage familial dans le monde. Chacun devant assurer au mieux les responsabilités qui lui incombent. Et réussir son mariage, eh bien, c'est comprendre le rôle que l'on a dans son foyer, la complémentarité. Et c'est comme ça qu'ensemble, on entre dans les œuvres préparées d'avance. Et pour terminer, je pense que dans le veuvage, qui est un retour au célibat, on peut aussi échouer ou réussir. Il y a un frère de la Martinique qui est venu, là, qui est encore en France, il va bientôt retourner, il est pasteur d'une église en Martinique. Et il nous a fait une petite présentation de son église avec des photos, et il nous a montré une sœur de 93 ans. Il a dit, cette sœur, elle est vraie bénédiction, elle est encore en bonne santé, des petits problèmes aux jambes, mais pour son grand âge, elle est en bonne santé. Elle connaît 20 psaumes par cœur. Elle connaît des tas de versets par cœur. Et il nous expliquait que quand lui, il venait pour l'encourager, c'est lui qui était édifié, qui est stimulé, qui était encouragé, il ressortait, mais vraiment à vouloir aimer Christ davantage. Et puis il nous disait qu'on ne s'invite pas à venir chez elle pour critiquer quelqu'un, parce que alors là, elle nous remontait les bretelles, mais quelque chose de bien. Et on peut dire, bien, c'est peut-être un exemple, voilà comment on peut bien réussir sa vie seule, quand on est veuf, quand on est veuve. Hein. Des années de vie chrétienne vécues dans la fidélité au Seigneur, eh bien, ça nous conduit vers une profondeur, une maturité qui bénisse les autres. On devient une source d'eau vive. Et pour conclure, Dieu veut donc qu'on le glorifie en réussissant ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quelle que soit notre situation, célibataire ou marié. Il faut qu'on progresse, il faut qu'on avance dans la sanctification. Et quel que soit notre état, il y a des merveilleuses occasions de servir aujourd'hui qu'on ne pourra peut-être pas faire demain. C'est Dieu qui a choisi de nous placer dans cette situation qui est propice pour nous permettre d'entrer dans les œuvres préparées d'avance. Demain, peut-être que notre vie va être bouleversée, Dieu sait, mais choisissons de faire ce qui est bien aujourd'hui. Alors, seul ou en famille, quelle est l'œuvre de service que Dieu vous demande de faire en vue de l'édification du corps de Christ.
Merci. Seigneur, notre vie est une vapeur qui dure juste un peu. Et qu'est-ce qu'on aurait fait de cette vapeur, Seigneur? Nous te prions de nous faire agir dans ce monde. Parfois, notre situation nous paraît longue, des années d'attente, de solitude, dans une situation difficile, certaines dans le mariage même. Mais nous voulons regarder les choses de ton point de vue, de ton perspective. Notre vie est une vapeur dans l'éternité. Et nous te prions que tu nous aides à préparer cette éternité pour le mieux. Seigneur, il y aura des siècles et des siècles à vivre dans l'épanouissement total dans ta présence. Mais tout cela dépend de ce que nous avons fait ici, dans cette vie. Nous te prions de nous donner la foi en toi, dans ce que est ton but pour notre vie, le contentement. Seigneur, nous te prions pour les célibataires et les familles de nos églises, que tu agisses dans l'ensemble. Seigneur, nous te prions que les familles soient exercent l'hospitalité et l'amour envers les autres. Tu donnes aux célibataires un fardeau pour le service et pour accomplir tes œuvres que tu as préparées d'avance. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Conduis cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Donc voilà, le repas dans une demi-heure.